EducPop.
L'éducation populaire va-t-elle changer le monde ?
Juliette et Valentine vous emmènent faire un tour d'horizon de ces pratiques collectives d'émancipation et de transformation sociale.
Une émission mensuelle coproduite par CEP et Radio BLV.
Je suis Juliette et je suis avec Valou. Bonjour Valou.
Bonjour.
Et on est toutes les deux de l'association CEP comme les champignons. CEP, c'est une association d'éducation populaire à Valence qui propose des ateliers de quelques heures, des stages de plusieurs jours, des événements pour se rencontrer et de l'accompagnement personnalisé pour les initiatives d'EducPop sur le territoire. Un peu comme le rhizome des champignons qui nourrit la forêt, CEP, c'est un terreau dans lequel on a envie que les gens viennent puiser pour devenir des agitateurs et des agitatrices sociales. On y découvre des enjeux politiques et des thématiques de société, on s'y familiarise avec des outils et des méthodes d'éducation populaire, on rencontre d'autres personnes curieuses et engagées, et on y crée des occasions de passer à l'action et de faire ensemble.
Dans cette perspective, nous sommes avec vous une fois par mois pendant 30 minutes sur Radio BLV pour vous parler, partager notre passion pour l'éducation populaire. Nous vous proposons un tour d'horizon de ce qui constitue, selon nous, l'EducPop, et nous découvrons ensemble des sujets, des outils et des invités au fil des émissions. Bienvenue dans EducPop, l'éducation populaire va-t-elle changer le monde ?
Et ce mois-ci, on continue notre thématique du mois dernier qui est théâtre et éducation populaire. Et pour ça, nous avons toujours avec nous notre invité Val.
Salut.
Donc, tu étais déjà avec nous le mois dernier pour parler de théâtre playback qui est, je le rappelle pour les auditoristes qui n'ont pas encore écouté la première partie de cet épisode, que je vous conseille fortement d'écouter avant, ça aidera beaucoup à comprendre ce qui se passe. Le théâtre playback, c'est une pratique théâtrale qui est basée sur de l'improvisation, où une personne du public va raconter une anecdote, quelque chose qui lui est arrivé réellement dans sa vie, soit d'ancien, soit de récent. Et tout le monde entend cette histoire et les comédiens et comédiennes vont rejouer, refléter ce qui a été raconté en accent sur différentes dimensions émotionnelles, globales, symboliques, politiques, etc. Avec comme principe de base un geste, un son pour représenter ce qu'on a envie de représenter. On avait fait une bonne introduction au sujet la dernière fois et là on va s'intéresser un peu plus précisément au lien entre théâtre playback et éducation populaire. Et pour ça, on va s'intéresser aux quatre piliers du playback qui sont, je les nomme d'un coup, le pilier personnel, le pilier social, le pilier politique et le pilier artistique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Val ?
Oui, on peut commencer par le premier pilier que tu as nommé, le pilier personnel. Donc, un des aspects du théâtre playback, c'est que c'est un théâtre participatif qui est centré sur l'écoute de récits individuels. Donc, ce sont des histoires vraies qui viennent du public ou du groupe dans lequel on intervient. Et d'un point de vue de l'éducation populaire, pour moi, ça vient appuyer sur cette chose que ça permet d'être reconnu dans son vécu en tant que personne. C'est du savoir chaud, comme on dit. Donc c'est mon intime, c'est ma vie, c'est mon expérience subjective qui est partagée dans un espace public ou semi-public et auquel on va être à l'écoute et on va en faire quelque chose.
Ouais, c'est devenir... moi, je trouve que c'est hyper intéressant de voir qu'on peut devenir le sujet et l'objet d'une histoire et d'un approfondissement, d'une analyse, d'une représentation.
Exactement, ouais. Pour clarifier, le théâtre playback ou une représentation, ça n'a pas de vocation thérapeutique. On peut constater, enfin moi ça m'est déjà arrivé de voir que en tant qu'actrice ou en tant que participante, j'ai pu avoir des effets bienfaisants, d'avoir pu partager, d'avoir pu être vue dans mon histoire, d'avoir reçu de l'empathie.
Ouais, ça fait de ouf du bien.
Bah c'est clair, ouais, nous on en fait chaque semaine, on commence notre semaine avec ça les lundis soirs, et c'est une sorte de, en tout cas en tant que personne qui pratique cette activité, c'est une hygiène émotionnelle et une hygiène de relationnelle qui fait beaucoup beaucoup de bien.
Ouais, moi quand j'en fais pas, ça me manque. Hein.
ouais, bah pareil.
Mais pour autant,
on n'est pas des thérapeutes, on ne se fait pas de la thérapie individuelle ou collective entre nous. Tant mieux si ça peut avoir des effets bienfaisants sur l'individu, Mais on n'est pas dans une, on n'est pas formé pour et on n'est pas dans une posture thérapeutique.
Mmh. Ok, donc le récit de soi comme matière intéressante, l'expérience individuelle est intéressante à creuser, à partager, à développer.
Ouais, et puis peut-être on pourrait partager un exemple pour ça. Valou, toi, t'avais en tête quelque chose, une histoire que t'as racontée un jour ou...
Ouais, effectivement, moi, ça me fait penser, la première fois que j'ai vu un spectacle de théâtre playback, c'était il y a peut-être 3 ans, quand toi, t'avais ta troupe d'avant, Val, et... Moi, je ne suis pas du tout une personne qui, normalement, me livre facilement sur de l'intime, du perso, encore moins en public, encore moins avec des gens que je ne connais pas. C'est plutôt hors de question, d'habitude. Et là, la manière dont ça s'est fait, que les comédiens, comédiennes livrent aussi des choses à elles. Enfin, je ne sais pas, il y a eu un cadre vraiment de confiance, intimiste, en même temps beau et à l'écoute, je ne sais pas, qui a ouvert, moi, les vannes. Et j'ai une histoire hyper personnelle qui m'est venue. Et qui en plus normalement c'est une histoire que je ne partage pas non plus et ça m'a fait trop du bien en fait de la raconter aux personnes qui étaient là. Il y avait une partie de ma communauté de copains copines et d'autres gens que je connaissais pas et en fait ça fait aussi exister nos histoires intimes, enfouies, cachées, parfois honteuses, et ben ça les fait réexister et il y a 4 acteurs actrices qui en font des jolies choses et ça m'a fait du bien.
Trop bien.
Moi, quelque chose que j'aime bien dans ce type de représentation aussi, c'est qu'on passe d'une histoire à une autre et du coup, ben, on va donner tout, donc sur scène, tout notre jeu, toute notre présence et puis dans le public, toute notre écoute sur cette histoire-là. Et puis ensuite, on close cette histoire et puis on passe à la suite. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment les histoires et leurs enchaînements et leurs échos les unes aux autres. Le sujet, c'est pas la personne qui raconte l'histoire, c'est vraiment l'histoire elle-même qui est un cadeau offert à la communauté qui est présente, quoi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ensemble sur la scène.
Et pour être un tout petit peu plus concret, je voulais nommer comment ça se passe. Toi, tu es conductrice, et c'est un rôle particulier dans la représentation de théâtre playback, c'est-à-dire que c'est la personne qui va un peu animer la soirée, expliquer ce qu'on fait, etc. Et notamment... Tu vas inviter à un moment les gens du public à raconter une histoire. Quelqu'un va se porter volontaire et tu vas l'inviter à venir avec toi sur scène sur 2 chaises qui sont là exprès. Et tu vas l'aider, cette personne, à dérouler son histoire. Elle ne se retrouve pas toute seule au milieu des gens à devoir raconter un truc. Tu lui poses des questions pour l'aider et aussi pour donner aux comédiens, comédiennes suffisamment de matière pour pouvoir jouer derrière.
Oui, exactement. Moi, mon rôle... Ma posture quand je prends ce rôle-là dans une représentation, facilitatrice de la représentation, ça va être d'offrir un cadre à la fois sécurisant et un cadre sécurisant pour la personne qui va venir raconter son histoire. Et tout le travail que moi j'ai pu faire ces dernières années sur cette posture-là, c'était de me dire ok, je suis là pour une histoire et comment je fais pour que la personne qui raconte cette histoire, elle se sente bien. Mais je suis pas sa thérapeute, je suis pas sa pote. Et donc ça, voilà, ça demande du travail et de la nuance là-dedans. Pendant ce petit temps d'interview, sans perdre de vue notamment tout ce qui peut se passer dans le public, les réactions qu'il peut y avoir, parce que parfois c'est des histoires qui sont super drôles, parfois tragiques, donc y a des émotions qui... Enfin, le public réagit, quoi. Et les comédiens, comédiennes sur scène qui, elles ont besoin de matière, à la fois en termes de vécu de la personne et de choses concrètes qui se passent pour pouvoir... décortiquer dans leur tête et dans leur corps avant de pouvoir proposer une scène avec ce qu'aura été dit. Donc ça demande, c'est un travail tout antenne ouverte sur ce qui se passe et le cœur de ça, la pointe de ça, c'est l'histoire qui est racontée, c'est la force du récit et avoir cette confiance. C'est notre fil rouge et c'est ce récit-là et ce qu'on va en faire qui va tirer d'autres récits. Et...
Je pense à moi ce que je fais en stage sur la création d'un cadre qui permet l'émergence de récits personnels. C'est aussi vraiment quelque chose auquel je fais attention et tous les animatrices de d'Éduc Pop, j'imagine aussi, de créer un cadre qui permet aux gens de s'exprimer personnellement et que ça peut être l'occasion de raconter des choses qu'on a vécues qui sont parfois difficiles, dont on n'a pas réalisé la portée, et qui peuvent effectivement souvent faire un effet d'avalanche, c'est-à-dire que ça va permettre à d'autres aussi de prendre conscience de ce qu'ils ont vécu et de le partager à leur tour. C'est quelque chose que j'ai observé à plusieurs reprises.
Oui, exactement. Ouais. Donc ça nous permet d'enchaîner sur le deuxième aspect du théâtre playback dont on a parlé, l'aspect social. Un des objectifs du théâtre playback, c'est de tisser du lien entre les personnes présentes en faisant circuler les récits et en nourrissant la conscience et l'empathie collective et la compréhension au sein d'un groupe. Donc voilà, un récit va en appeler un autre et tout ce travail de la conductrice dont on parlait, ça va être de se demander, ok, ben, on a entendu une histoire, on a entendu un point de vue, quel type d'histoire ou de personne on a besoin d'aller chercher pour donner à comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce groupe de personnes, c'est quoi les voix qui sont tues, c'est quoi les voix qu'on n'entend pas, c'est qui a besoin d'être écouté.
Ouais, je t'ai déjà entendu plusieurs fois dire qui d'autre a ce ressenti ou qui d'autre a vécu les choses comme ça, pour un peu créer du lien, se dire ok, je suis pas la seule personne à avoir vécu quelque chose de similaire, et à l'inverse, demander est-ce que des personnes l'ont vécu complètement différemment.
C'est ça, quand quelqu'un raconte une histoire publiquement qui va forcément avoir sa subjectivité. Si tu te reconnais pas dans ce récit-là, ça peut aussi te fermer le clapet et te dire non, mon expérience à moi, elle a pas sa place ici, voire elle est pas légitime, je suis bizarre. Et donc nous, le travail qu'on fait en amont d'une représentation ou une intervention, c'est d'essayer de connaître les personnes pour qui on va intervenir, de savoir c'est quoi l'actualité de ce groupe-là. Donc, si c'est une asso, c'est quoi son historique, c'est quoi les dynamiques actuelles, c'est quoi leur projet, c'est quoi les conflits. Est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent avec une forte charge émotionnelle et qui vont avoir besoin de parler, mais du coup vont prendre de la place, et c'est à nous de faire ces arbitrages, de dire comment on construit un espace qui va donner à entendre des voix qui autrement sont pas entendues.
Et moi je trouve ça aussi intéressant, ça permet de faire lien, je trouve, sur une autre modalité que celle habituelle, c'est-à-dire que dans un cercle d'amis, on va pouvoir parler d'intimité, mais c'est pas toujours facile. Et dans des associations ou dans des contextes plus professionnels, ou en tout cas moins intimes, moins amicaux, on va moins le faire. Et du coup, je trouve que le théâtre playback peut permettre d'aborder ces sujets d'intimité ou émotionnels d'une façon qui soit quand même cadrée et partageable, qui permet d'apprendre à se connaître ou de parler d'un sujet qui traverse tout le groupe, mais qu'on ne sait pas trop aborder autrement.
Ouais.
Quoi.
Ouais, et puis ça, c'est quelque chose que culturellement, moi en tout cas, je n'ai pas connu des espaces comme ça dans ma vie avant. J'imagine qu'il y a des cultures où c'est beaucoup plus encore le cas de se rassembler, de partager ensemble des histoires, où il y a une plus grosse part de la culture orale qui est encore présente. Mais moi, je sais que c'est un truc qui me manquait dans ma vie, quoi, des endroits où je pouvais écouter le vécu des personnes sans être juste dans un à un, quoi. Dans un face-à-face.
Ouais. Ça me fait penser, quand on l'a fait aussi localement, on a une lutte locale écolo, et ils sortaient de plusieurs actions très dures, avec beaucoup de répression, etc. Et on a proposé aussi une séance de théâtre playback, et ça a permis de sortir de l'émotionnel, du ressenti. À ce moment-là, j'ai eu peur, à ce moment-là, j'ai eu honte, à ce moment-là, j'ai été le plus heureux du monde. Enfin, et effectivement, on est dans les milieux politiques comme professionnels, parfois on est amené à être blindé et à montrer notre carapace plus que nos sentiments. Et là, sans les mettre en vulnérabilité, parce que la phase dure était terminée, après cette phase, c'est bon, on peut peut-être se revoir comme des individus avec nos émotions.
Ouais, et un de mes objectifs principaux en faisant une intervention de théâtre playback dans un groupe, c'est de redonner du pouvoir d'agir à ce groupe. Enfin, c'est d'aller montrer toutes les forces, toute la dynamique. C'est de faire se sentir encore plus ensemble, encore plus liés, encore plus puissants. Ça, c'est quand on arrive à toucher à ça, c'est des moments incroyables, quoi. Mmh.
Et puis ça, c'est vraiment typiquement, je trouve, une démarche d'éducation populaire que de...
Ah bah carrément.
De partir de ce que les gens vivent pour, de un, tisser du lien et de deux, créer du pouvoir d'agir et ensemble, faire ça ouais. en collectif aussi, que ce soit une ouais. pratique finalement collective devant un public, etc. Ouais, je trouve ça carrément. Eh bien, avant de partir sur le troisième pilier politique, on va faire une petite pause musicale. Est-ce que Val, tu peux nous introduire la chanson que tu as choisie ?
Oui, j'ai choisi la chanson Senza de Camille, qui est une des chansons dans ma playlist de notre atelier de théâtre playback que j'utilise en début de séance et qui nous emmène dans nos corps et nos mouvements.
Trop bien, on écoute ça. Dun, dun. Nous sommes de retour dans l'émission EducPop. L'éducation populaire va-t-elle changer le monde ? Et je suis toujours avec Val et Valou pour parler de théâtre playback et d'éducation populaire. Juste avant la pause musicale, on allait parler du troisième pilier du théâtre playback, qui est le pilier politique. Mais en fait, comme c'est un gros morceau, j'ai envie de le garder pour la fin. Du coup, on va faire un petit détour par le quatrième pilier, qui est le pilier artistique, dont on a déjà parlé dans l'épisode du mois dernier.
Oui, qu'on peut reprendre... Un peu, moi, ce qui me plaît dans le théâtre playback, un des trucs qui me plaît, c'est que artistiquement, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Tout le monde peut bouger d'une certaine manière ou faire un petit geste ou faire un petit son, quelque chose, en tout cas, s'exprimer artistiquement. C'est accessible et en même temps, j'ai l'impression que je pourrais passer ma vie entière à travailler cette dimension-là de... apprendre à trouver le mouvement, le son, la voix la plus juste. Comme c'est de l'improvisation, on peut utiliser toute une palette de compétences artistiques. Voilà, la voix, le corps, on pourrait faire de la poésie, du slam, on pourrait danser seul, à plusieurs... voilà, il y a vraiment énormément à faire pour progresser là-dedans.
Et qu'il y a des musiciens souvent dans les représentations de
ouais, oui, effectivement.
On n'a pas trop parlé, mais...
Ouais, c'est de l'improvisation à la fois du jeu sur la scène et en musique. Et ça, bah, ça crée... Enfin, la musique, elle est là aussi pour créer toute une ambiance, pour porter des émotions sur la scène. Ça peut être très, très puissant.
Moi, je me souviens très bien de deux histoires que j'ai racontées en répétition, en entraînement, ouais. Le lundi soir. Et à deux reprises, une des comédiennes avec qui on s'entraîne, qui a chanté. A fait du chant sur mes chansons.
En impro, quoi.
En impro, et c'était si beau. Ça m'a vraiment fait hyper du bien, ça a amené une dimension, vraiment une autre dimension, presque plus, je sais pas, plus grave, plus solennelle, plus officielle, un peu, dans mon histoire. Et ouais, ça m'avait beaucoup touchée, et je trouve que c'est aussi quelque chose qui fait vraiment penser à l'éducation populaire, où le but, c'est de se réapproprier des choses qui ont été retirées un peu, d'une certaine manière, au peuple ou aux classes populaires, et du coup, se réapproprier l'art, s'emparer de l'art. J'aime aussi beaucoup le fait que dans le théâtre playback, moi je vais de temps en temps à la musique, je ne sais pas du tout faire de musique, mais il n'y a pas besoin en fait pour en faire et pour que quand même ça rentre bien à la fin, quoi.
Ouais, c'est ça, à la fois c'est accessible et en même temps il y a tout un immense champ à explorer pour pouvoir exprimer avec toujours plus de nuances et de créativité une histoire, une émotion qui nous a été offerte.
Ouais.
C'est et alors, la politique ?
J'allais dire, c'est très politique, tout ça.
Ouais.
Alors, le troisième pilier, le gros morceau, en quoi c'est politique, le théâtre playback ? Tu disais, juste avant la pause, Val, que le but, c'est de faire parler, de donner la parole à des personnes qui ne l'ont pas beaucoup, de faire parler les marges.
Ouais, de faire parler les marges et les histoires en marge. Les histoires qu'on raconte pas forcément, pour mille et une raisons, ça peut être parce qu'elles sont taboues, parce qu'elles sont anodines, parce que on a tendance à les oublier. Rien que voilà, cette question déjà de à qui est-ce qu'on va aller chercher et qu'est-ce qu'on va aller chercher comme histoire, qu'est-ce qu'on va favoriser comme émergence d'histoire, ben déjà ça c'est politique, à qui on donne la parole. Voilà, ça c'est un des gros points. Et ensuite, bon, on pourrait en parler des heures, mais nous, un des gros travaux qu'on fait, c'est apprendre à décortiquer les histoires qu'on entend. C'est, en fonction de qui raconte cette histoire, ben, on va pas l'interpréter différemment.
Pas pareil, tu veux dire ?
Oui, on va pas l'interpréter pareil. Que ce soit sur des questions de genre, de classe, de race, de validité, d'âge. Et du coup, ben, c'est nous entraîner à avoir, en travaillant notre conscience politique, on va arriver à analyser de manière plus fine ces récits-là et du coup à en faire quelque chose sur scène qui va venir nommer les dynamiques de pouvoir, qui va venir nommer des choses qu'on pas forcément été explicité par la personne, mais qu'on a pu capter par qui elle est, par parfois des gestes aussi, ou par ce qu'on sait de l'actualité politique, de ce qu'on sait de l'actualité sociétale en ce moment. Mmh. Et du coup, voilà, tout ce travail-là de décortiquage, il va nous amener à voir toutes ces dynamiques-là dans...
Ouais, moi, je me souviens, lors d'une représentation qu'on avait fait pour un collectif militant, je me souviens d'une histoire racontée par une nana où je me suis retrouvée à incarner le patriarcat, par exemple, pour donner à voir la dimension genrée de l'histoire et à chanter l'hymne des femmes.
Ouais.
Je crois que j'ai cassé les genoux du patriarcat, un truc comme ça.
Ouais.
Et que c'était une façon concrète de rendre visibles les rapports de pouvoir, les rapports de force qu'il y avait à l'intérieur de cette histoire, quoi.
Ouais, carrément. Ouais. Et puis, on peut effectivement incarner des concepts ou des symboles, mais aussi. On incarne des personnes qui sont différentes de nous, qui n'ont pas notre histoire, qui n'ont pas notre place dans la société. Je me souviens d'une autre représentation où, Juliette, toi, tu t'es retrouvée à incarner le narrateur qui était un homme trans. Toi, tu n'es pas un homme trans. Comment on fait pour incarner, jouer cette personne de manière juste, alors qu'on n'arrive pas du tout du même, de la même expérience.
Ouais, ça c'est un gros enjeu aussi dans l'éducation populaire, comment on fait pour faire quand on parle de positions sociales différentes, pour en prendre conscience, pour réussir à s'écouter, à se comprendre, etc. Et sur le politique, j'ai aussi fraîchement en tête, puisqu'on en revient, la représentation d'une troupe libanaise qu'on a pu voir à Salamanque, à un rassemblement européen de théâtre playback. Et du coup, c'était une troupe qui venait du Liban, qui nous a fait une représentation incroyable dans le contexte du génocide qui se passe en Palestine en ce moment. Et c'était chargé de ça. Ils ont donné la parole à des personnes racisées qui avaient des vécus du coup hyper hyper durs et hyper puissants sur le déchirement entre voir ce qui se passe en Palestine et eux être loin et en même temps se sentir touchés de ça. C'était hyper. Ils ont hyper bien réussi, je trouve, à amener cette dimension politique.
Mm-hmm. Oui, et ça, et c'est une troupe qui a plus de 10 ans, peut-être même 15 ans d'expérience, qui a l'habitude de jouer dans des contextes sociaux qui sont très violents. Et toute cette expérience-là, eh ben, ils arrivent avec sur chaque nouvelle scène, et ça se sent de ouf, quoi.
Et toi, Val, comment ça t'est venu, cette histoire de nous amener à Salamanque?
Alors moi, ça fait du coup quelques années que je me forme au théâtre playback. Comme je vous ai dit, c'est assez peu pratiqué en France. Donc assez rapidement, pour pouvoir approfondir ma formation, j'ai dû aller dans d'autres pays européens, notamment en Belgique ou en Angleterre, où j'ai rencontré d'autres groupes qui avaient d'autres approches. Et j'ai trouvé ça super riche d'aller à la rencontre d'autres d'autres praticiens. Et dans cette communauté européenne et internationale de playback, il y a régulièrement des rassemblements. Et là, donc, le mois dernier, il y en avait un à Salamanque en Espagne, qui est le rassemblement européen, donc, où différentes troupes et personnes qui font du théâtre playback se rassemblent. Et donc, dans la démarche d'aller se former, aller à la rencontre d'autres troupes, je me suis dit que c'était hyper intéressant qu'on y aille tous ensemble. Et donc, en farfouillant dans nos réseaux et sur les sites de l'Union européenne, on a pu obtenir un financement de l'agence française Erasmus+. C'est les projets de mobilité de courte durée pour les apprenants et le personnel de l'éducation des adultes. Un grand mot pour parler de la formation continue à l'âge adulte. Et ce dossier qu'on a présenté, qui a été accepté, nous a permis d'aller tous ensemble à ces rencontres européennes et va nous permettre, là cette année, de continuer certaines formations individuelles, d'inviter des formatrices européennes à Valence, et puis à certains d'aller aussi en stage d'observation dans une troupe ukrainienne en Lituanie.
Oh, wow.
Tout ça dans l'idée de relier nos pratiques, faire circuler les savoirs, s'inspirer mutuellement. Dans une dimension d'apprentissage réciproque.
Trop bien.
Trop bien. Et où est-ce que les Valentinoises et Valentinois peuvent retrouver ces pratiques de playback théâtre ?
Alors nous, on a un site internet qui s'appelle place-o-jeu.fr ou une page Instagram place.o.jeu. Et on va essayer de relayer un max d'informations sur ces plateformes-là, que ce soit ce que nous on propose ou ce qui est proposé autour de nous en France et dans les pays limitrophes.
Ok. On n'a pas encore de date de représentation, mais on vous les fera parvenir dès qu'on les a.
Ouais, carrément.
Oui.
Merci beaucoup Val, merci Juliette. C'est la fin de cette émission. Notre petit programme de fin d'année, c'est on se retrouve le 26 novembre au Cause Toujours pour un atelier Décryptons l'actualité ensemble à 15h pour retrouver du pouvoir sur l'actu. Et le 16 décembre, un mardi soir à 18h30, toujours au Cause Toujours, pour se partager justement nos bons plans pour comment s'informer mieux, de manière plus indépendante, éclairée, voilà, pas forcément avec beaucoup de textes, comment on peut s'informer différemment et affûter notre esprit critique. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve très vite.
À bientôt.
À bientôt.
Éduc'pop.
L'éducation populaire va-t-elle changer le monde ?
Juliette et Valentine vous emmènent faire un tour d'horizon de ces pratiques collectives d'émancipation et de transformation sociale.
Une émission mensuelle coproduite par CEP et Radio BLV.